pour la plupart, n'y pensaient guère. La sexualité était présentée tout au plus comme un des à-côtés de la vie matrimoniale, uniquement destinée à la procréation. Quant au plaisir et à la liberté sexuelle, c'était majoritairement l'affaire des hommes, qui avaient tacitement le droit d'aller s'épancher en dehors du couple, le plus souvent au bordel, tandis que leurs épouses étaient condamnées à l'abstinence ou à l'insatisfaction. Par ailleurs, la ménopause sonnait l'heure de la fin des réjouissances pour la plupart des femmes, à l'âge où les quinquas occidentales se considèrent aujourd'hui au sommet de leur forme. L'amour en plus. La sexualité comme lien fondant l'idée même de couple n'est pourtant pas une idée récente. Les Germains, durant le Haut Moyen Âge, considéraient les relations sexuelles comme un élément essentiel de l'union. Le lendemain des noces, le mari faisait une donation à sa femme, le Morgengabe, qui correspondait au prix de la virginité de l'épousée. L'acte sexuel faisait partie du contrat. La sexualité, selon la morale chrétienne qui se mettait alors lentement en place, n'était d'ailleurs licite que dans le cadre du mariage. Le père Jean Lamblot, professeur de théologie au Centre universitaire catholique de Bourgogne, résume précisément les principes qui dirigèrent officiellement les consciences occidentales jusqu'au milieu du XXe siècle. Saint Augustin, dans le De bono coniugali et le De nuptiis et concupiscenti, construit les deux doctrines qui resteront tout le temps. Celle de l'indissolubilité de la procréation comme fin du mariage. Pour lui, le mariage est proles, fécondité, fides, fidélité, sacramentum, forme de sacrement et donc indissoluble. La procréation est la première fin du mariage. Dieu a institué l'union pour engendrer, non pour pécher. La fides est importante d'un point de vue très pratique. Elle entraîne la présomption de paternité. Ce qui revient à limiter le rôle de la sexualité matrimoniale à la seule procréation, mais qui surtout explique par avance la différence de traitement constatée envers l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. Un mari infidèle ne risque pas de remettre en cause cette présomption de paternité, sauf dans le couple dont il séduit l'épouse, mais ça, c'est une autre histoire. Tandis que l'infidélité de l'épouse risquait de susciter des doutes sur cette sacro-sainte filiation. Pour l'Église, la sexualité, source de plaisir au sein d'un couple marié, dut attendre le Concile Vatican II et le texte de la Constitution pastorale Gaudium et Spes en 1965 pour être admise. Ce texte général sur l'Église dans le monde de ce temps affirme au passage que le mariage n'a pas seulement pour fin la procréation, mais aussi l'amour et le bonheur des époux, ce qui revient implicitement à réhabiliter la sexualité matrimoniale. On a failli attendre. Marié pour le plaisir. Ce détour par l'opinion de l'Église catholique, très prégnante durant des siècles en Europe, ne doit pas faire oublier d'autres réalités plus triviales concernant la sexualité matrimoniale de nos ancêtres. L'homme et la femme ne furent quasiment jamais égaux en la matière. Il fallut attendre la libération sexuelle des années 1970, parallèlement à la diffusion de la contraception, pour qu'un semblant d'égalité apparaisse. Mais il suffit de se souvenir de l'étonnement suscité par la publication de la vie sexuelle de Catherine M. pour admettre qu'il semble encore inopportun pour une femme de revendiquer une vie sexuelle débridée à l'image de celle des Chaud-Lapins, Casanova et autres Don Juan, universellement célébrés comme des héros de la gente masculine. Au sein des couples mariés, cette différence n'en était que plus visible, en particulier dans les classes dominantes. Nous avons raconté dans un autre ouvrage de cette collection le traumatisme que vivaient autrefois les jeunes filles de bonne famille au soir de leurs noces, véritables victimes de l'ardeur sexuelle de leur mari. Les hommes, forcément dégourdis au bordel, imposaient à leurs jeunes épouses, pour la plupart totalement ignorantes des réalités tangibles de la sexualité, des étreintes d'une telle violence que les pauvres femmes en concevaient un dégoût durable pour l'acte sexuel. Par la suite, le jeune mari s'éloignait peu à peu du lit nuptial, pour retourner aux maisons closes qui tenaient lieu tout autant de clubs masculins que de lieux voués au défoulement sexuel. Les campagnes, souvent plus nature. L'ambiance était sans doute bien différente dans les milieux plus populaires. Les campagnes se révélaient plus nature et plus avancées en la matière. De très sérieux ethnologues ont inventorié des traditions qui valorisaient et organisaient la sexualité prénuptiale, ce qui avait évidemment des conséquences sur la vie sexuelle des époux après leur